Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Le renouvellement du mandat de l'aménagement était attendu avec impatience ici au Mali. Pourtant, le mandat en question n'en était pas à son premier renouvellement. Alors pourquoi tant d'intérêt et d'impatience pour un acte qui, a priori, n'était jusque-là perçu que comme une simple formalité? La raison est apparemment double. D'un, l'évolution de la situation sur le terrain avec les attaques qui ne cessent de se multiplier, particulièrement contre l'aménagement. De deux, ayant pris la mesure de la gravité de la situation, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait présenté un rapport assez ambitieux au Conseil de sécurité en vue du renouvellement du mandat de l'aménagement. Un rapport dont le contenu incitait à croire qu'il fallait s'attendre à un changement par rapport à la mission assignée au casque bleu au Mali. Alors, le mandat est renouvelé depuis mercredi par la résolution 2295 adoptée donc à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité. Avec cette résolution, peut-on parler de changement de mandat de l'aménagement? Est-il véritablement plus robuste et plus offensif que celui qui vient de prendre fin? Quelle est la portée réelle des nouvelles mesures annoncées? Qu'en est-il de leur applicabilité sur le terrain? Les Maliens s'interrogent pareil pour les hommes des médias dont nous recevons ici dans le studio 3. Il s'agit de Sir Daniel, il est journaliste indépendant. Nous avons ici en ligne Paul Ben qui est journaliste indépendant. Et notre troisième invité s'appelle Ibrahim Labas Keïta, il est du Scorpion. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba.
Le Grand Dialogue.
Bienvenue à toutes et à tous. Le mandat de l'aménagement a été renouvelé sans surprise, prorogé donc d'un an, mercredi à New York par le Conseil de sécurité. On attendait beaucoup de ces renouvellements. Comment appréciez-vous cette résolution 2295 du Conseil de sécurité de l'ONU? Je pose la question en premier lieu donc à vous, Sir Daniel.
Alors, la première remarque que je voulais faire, c'est que la communauté internationale a changé finalement de lunettes pour voir la réalité du nord du Mali, du voir la réalité au Mali. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on disait que le mandat n'était pas totalement adapté. Donc, là, ma première réaction, la communauté internationale change de lunettes pour voir la réalité sur le terrain. Deuxième observation que je souhaitais faire, c'est que une chose est de rendre plus robuste le mandat. Il y aura 2500 hommes supplémentaires, il y aura des appareils comme de l'armement plus sophistiqué, notamment sur le plan aérien. Mais une chose est de mettre ça rapidement en place. Parce que je vais vous dire, vous avez actuellement 11 à 12 000 hommes casques bleus sur le terrain, vous en aurez 2500 de plus, mais il n'y a pas 12 000 terroristes dans le nord du Mali. Il n'y a pas 12 000 fouteurs de pagailles dans le nord du Mali. Donc c'est pas cela. Le problème, c'est le type d'attaque que nous subissons, c'est-à-dire que c'est une guerre asymétrique. Il passe pas des attentats, des embuscades. Donc c'est de cette manière, c'est de la guérilla que les forces internationales doivent en partie mener pour pouvoir vaincre la situation. Oui, c'est une bonne chose, mais attention, il faut pas dire que le problème est réglé parce que on a musclé un peu le mandat.
Ibrahim Labas, Keïta du Scorpion.
Bon, je dirais quand même que c'est sur papier que tout cela se voit. Maintenant, est-ce que la réalité va être exactement la même chose? Donc, c'est là où la question va se poser. Parce que comme il a eu à le dire, c'est une guerre asymétrique. Ils sont parmi nous. Et à tout moment, ils peuvent réagir au sein de nous. Et là, c'est difficile à contrôler. Donc, ils s'étendent soit en population civile, en simple citoyen, mine de rien, ils deviennent des terroristes et ils peuvent commettre des attaques. Donc, c'est très difficile de les contrôler. Bon, donc, changer le mandat, je crois que c'est une très bonne chose parce que, comme Serge dit que on regarde maintenant dans les vraies lunettes, mais moi-même, je disais que autrefois, on refusait même de regarder l'eau dans le fleuve. C'est exactement le terme que j'aime beaucoup utiliser. Parce que ça se voyait, ça sautait à l'œil. On a beaucoup parlé de cela. Parce qu'on disait chaque fois, la mission de l'aménagement, ce n'est pas de lutter contre le terrorisme. Bon, moi, je pense que c'est une manière d'encourager même le terrorisme à agir contre la mission. Parce que quand tu dis à un ennemi que ton rôle, ce n'est pas de le combattre. Bon, alors que c'est un ennemi qui cherche à te combattre, donc il croit que c'est une manière de lui faciliter la tâche. Voilà ce que je pense.
Alors, nous avons en ligne Paul Ben, Paul Ben qui est journaliste indépendant. Paul Ben, je sais que vous avez suivi de très près cette rencontre du Conseil de sécurité à New York qui a donc prorogé le mandat de l'AMINUSMA. Dites-nous vos premiers éléments d'appréciation de cette résolution, évidemment.
Oui, bonsoir chers auditrices, chers auditeurs du studio Tamani. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, tout le monde attendait avec impatience le renouvellement de ce mandat. Je suis actuellement à Gao et je voudrais vous dire que beaucoup de personnes ici sont très, très, très satisfaites que ce mandat soit changé. Mais il y a quand même un arrière-goût qui ne se dit pas sur toutes les langues, surtout au niveau des autorités. Les gens veulent voir le changement sur le terrain. Ils veulent voir le changement tangible. Ils veulent voir l'amusement à l'action. Comme je l'ai toujours dit, même si on amène toutes les missions des Nations Unies au Mali pour lutter contre les terroristes, il faudra qu'on les combatte réellement. Parce que hier, tout juste, dans l'après-midi, vers 16h, sur l'axe Luanda-Tombouctou, ils ont brûlé 8 camions citernes de la MINUSMA. Ils ont tué 4 de nos gendarmes. Et c'est vous dire que ces gens sont déterminés. Aujourd'hui, l'axe que j'ai fréquenté hier pour aller à Gao, c'est l'axe le plus dangereux au Mali. Ils sont partout. Et apparemment, l'AMINUSMA, bon, peut-être que comme le mandat a été changé, on verra peut-être qu'ils vont se mettre vraiment à l'action. Sinon, pour le moment, vraiment, c'est un peu fat. Mais attendons un peu, comme les choses ont changé de façon théorique, espérons que ce sera le cas de façon pratique.
Alors, on va retourner un peu en arrière. C'est Daniel, vous avez sans doute eu connaissance quand même du rapport du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, sur ce rapport remis au Conseil de sécurité, puis avant la date du renouvellement. Alors, le mandat, est-ce qu'il reflète à tous les niveaux les recommandations faites par le secrétaire général?
Grosso modo, oui. D'une manière générale, oui. L'idée, c'était de renforcer. En fait, c'était pas forcément... on ne change pas de mandat, c'est toujours le mandat 7, parce que le mandat, le chapitre 7, dans le système onusien... c'est ce qu'ils appellent le mandat le plus musclé. Mais il y a, je dirais, un article, une décision, un article additif plutôt, qui parle spécifiquement de lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire que nous aurons dans le nord du Mali, cette fois-ci, des forces qui vont lutter de manière permanente contre le terrorisme, c'est-à-dire des forces qui vont visiblement aller chercher les terroristes à la fourchette, à escargot, c'est-à-dire donc qu'il y aura forcément un contact, alors que jusque-là, j'ai un ami qui m'a raconté une histoire un jour, il y a une mission des casques bleus qui circulait dans le nord du Mali, et ils ont vu des gens armés à 5 mètres d'eux. Leur mission ne leur donne pas le droit d'aller attaquer ces gens tant qu'ils ne sont pas attaqués. Donc ils sont passés là en laissant les gens armés, alors que ces personnes ne devaient pas être armées. Donc disons que les choses vont changer, mais ça tout va dépendre, à mon avis, de comment ça va s'articuler sur le terrain. La collaboration avec les populations, la collaboration avec les groupes armés, parce que ça avance. Et à ce moment, on pourra dire si c'est utile, que c'est utile. Mais il faut aller vite, parce que si on ne va pas vite, ce qui va se passer, c'est que les terroristes et que des groupes les hommes armés vont tout de suite changer de système, de tactique.
Justement, Serge, vous l'avez dit, des mesures sont annoncées, des mesures vraiment très fortes, à commencer par exemple par celles relatives à la prise des mesures pour lutter contre les attaques asymétriques afin de défendre activement son mandat. Alors, comment est-ce que vous voyez cela dans la pratique?
Ça va être difficile. Dans un premier temps, ça va être difficile parce qu'ils ne sont pas habitués. En plus, il faut faire venir du matériel lourd, c'est-à-dire il faut des hélicoptères, il faut non seulement des hélicoptères, terme, il faut entraîner les gens. Les troupes africaines, disons-le, ne sont pas formées, ne sont pas bien formées, disons les choses clairement, pour ce genre de situation. On n'a pas d'abord ces équipements dans nos armées. Donc, à partir du moment où ce sont des troupes africaines qui rentrent au sein du système des Nations Unies, qui deviennent des casques bleus, donc forcément, il va falloir les former davantage. Donc, à mon avis, ça va mettre un temps, mais peut-être que si on va vite et que les objectifs sont clairement définis, et en disant par exemple, écoutons, commençons par tel endroit du nord du Mali ou de tel endroit du Sahel, parce que vous avez quand même des clés pour ce qu'on peut appeler des hubs pour pouvoir maîtriser entre guillemets le Sahel.
Il s'agira donc d'aller progressivement.
Il s'agira pas d'aller progressivement, il s'agira de faire un plan, d'aller à l'essentiel et non de tergiverser sur le terrain. Voilà ce que je pense.
Là-bas, Sibrahim Keïta.
Bon, moi, je pense qu'il faut mettre beaucoup d'accent sur les renseignements. Parce que vraiment, pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faut que les renseignements marchent à merveille. Parce que c'est vrai, on peut amener des matériels lourds, ça peut servir effectivement à des déplacements, ça peut servir à des surveillances sur un large niveau. Mais c'est surtout les renseignements. Parce que, vous savez, souvent au niveau des populations, il y a souvent des informations qui restent, en souffrance. On ne les exploite pas. Alors qu'il suffit d'avoir le tact seulement de les exploiter pour être vraiment efficace sur le terrain. Par exemple, quand les étrangers viennent, les gens s'y rendent compte que les étrangers sont là. Bon. Qu'est-ce qu'on fait pour, surveiller leur comportement, pour, fouiller leur bagage, tout. C'est ça, c'est des mécanismes surtout qu'il faut surtout mettre en place pour maintenant faire face à cette situation-là. Tant que les renseignements n'arrivent pas à être améliorés, je pense que les choses vont traîner encore.
Alors, Paul Ben, nous parlons justement de cette mesure annoncée pour lutter contre les attaques asymétriques. J'imagine que là-bas à Gao, c'est l'un des points qui donne le plus satisfaction.
Oui, M. Fomba, je voudrais quand même signaler ici que sur le terrain, ça fait plusieurs mois que je sillonne un peu partout. Vous savez, l'aménagement a tout ce qu'il faut comme matériel de renseignement, de combat. Ils ont les hélicos, ils ont des drones. Vous voyez, quand Serge Daniel dit qu'il faut que les troupes africaines soient entraînées, vous savez, quand les Tchadiens n'avaient pas de casque bleu sur la tête, mais c'était les premiers qui étaient au front, ils étaient au charbon, ils ont combattu aux côtés des Français, ils ont lutté contre le terrorisme. Il suffit tout juste de leur dire que bon, quand vous avez en face de vous ou dans une zone donnée des gens qui sont armés et qui ne le doivent pas être, mais vous les combattez.
Ouais, mais Paul Ben, je crois que le problème du matériel, le problème du matériel est une réalité parce que nous avons vu même dans les rapports, oui, du coup, secrétaire.
Je vous dis, je suis sur le terrain et je vois chaque jour passer. Je vois chaque jour, je rencontre chaque jour du matériel que je vois avec, par exemple, Barkhane. Moi, je n'ai pas vu ce que Barkhane a sur le terrain que la MINUSMA n'a pas. Ça, je ne l'ai pas vu. L'aménagement à tout ce que Barkhane a sur le terrain. Maintenant, au niveau des renseignements, vous avez le contingent de 650 soldats allemands qui est arrivé tout récemment. Son boulot principal, c'est le renseignement. Et je vous le dis, ce n'est pas des enfants de cœur. C'est pas ils portent la bannière des Nations Unies, mais ce n'est pas des gens qu'on peut attaquer comme ça. Ils sont lourdement armés. Ils ont tout ce qu'il faut. Je vous dis, tout ce qu'il faut pour que l'aménagement puisse lutter contre le terrorisme, c'est de changer les mentalités, le discours, donner l'ordre, donner le feu vert à ces soldats des Nations Unies de lutter réellement contre le terrorisme. Sinon, le matériel, vraiment, il y a des hommes qui sont là, mais c'est des militaires. On ne va pas les apprendre à tirer, on ne va pas les apprendre à... C'est des militaires aguerris que je vois sur le terrain. Et d'ailleurs même, j'ai échangé avec certains qui se plaignent, ils sont vraiment... Certains sont désabusés de ne pas pouvoir faire leur travail normal qu'ils doivent faire quand ils ont en face ou dans une zone donnée. Vous voyez l'axe Douanza-Tombouctou, ça fait 198 km. Mais il y a plus de véhicules brûlés, de véhicules détruits que sur l'axe Sévaré-Gao qui fait 555 km. C'est pas normal. Or, sur cet axe, presque chaque jour, il y a un convoi de la MINUSMA qui fait les va-et-vient. Mais comme je vous l'ai dit, pour le moment, ils n'ont pas le droit de lutter ou de tirer sur des terroristes qui sont abondamment dans cette zone. Donc, ils ne peuvent pas faire le travail. Mais ils sont armés. Ils ont toutes sortes d'armes pour lutter contre ces gens. Moi, je crois que c'est le mot d'ordre.
Alors, nous allons nous retrouver dans un instant pour la suite de ces débats. Nous donnerons donc la parole à Sœur Danielle qui a envie de réagir juste après la pause.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors, les nouvelles mesures annoncées pour le nouveau mandat de la MINUSMA au Mali, c'est de cela que nous parlions avant la pause. Alors, le problème du matériel, nous l'avons évoqué. Est-ce que les hommes qui sont sur le terrain sont suffisamment armés? Est-ce qu'il faut les armer de façon plus lourde que les armes qu'ils ont, dont ils disposent pour l'instant? Alors, nous avons écouté la réaction de Paul Ben. À présent, je crois qu'on va suivre la réaction de
ces
derniers.
Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que les soldats, les casques bleus de la MINUSMA n'ont pas le même matériel que les forces Barkhane sur le terrain. Ce n'est pas vrai. Quand vous discutez avec les spécialistes de défense, ils vous expliquent clairement que Barkhane est plus armé et plus actif sur le terrain que la MINUSMA. Et si vous prenez la résolution qui a été prise au Conseil de sécurité des Nations Unies, il est clairement dit que non seulement on envoie 2500 hommes supplémentaires, mais on envoie également du matériel militaire pour renforcer la sécurité, pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Donc ça, c'est clair. Mais cela dit, ce qui va manquer, à mon avis, vous pouvez avoir les armes, vous pouvez avoir les hommes. Si vous n'avez pas les renseignements, vous ne pouvez pas. Tout à l'heure, l'interlocuteur, notre collègue qui est à Gao, disait que l'administration avait tout le matériel de surveillance. Non, le matériel n'a pas tout le matériel. Ils n'ont pas tout le matériel de surveillance. Ils n'ont pas tout le matériel nécessaire pour surveiller ce qui se passe sur le terrain. Ce qu'il faut au-delà de tout ça, et j'en aurais terminé, c'est le renseignement humain. C'est-à-dire que si vous allez dans le désert, puisque c'est véritable no man's land, c'est-à-dire que vous pouvez parcourir 125 kilomètres sans trouver trace de vie, effectivement, vous avez les populations locales qui peuvent informer, mais ce que ces populations locales vous disent, parce que j'écris plusieurs livres sur la situation, mais en allant sur le terrain, et ce que ces populations vous disent, et on peut bien comprendre ces populations, c'est de vous dire, par exemple, écoutez, nous sommes ici, il n'y a pas de présence de l'État. Ceux qu'on appelle les djihadistes, c'est eux qui nous amènent les médicaments. Pourquoi voulez-vous que demain, on les dénonce, par exemple, aux autorités 1 ? Alors, pourquoi voulez-vous qu'on les dénonce et qu'ils viennent nous tuer ? Puisque vous savez là-bas que quand on dénonce les islamistes, les terroristes, le problème, c'est qu'ils viennent tuer les gens. Donc, avoir également le renseignement de terrain, savoir où ils sont, que font-ils? Ça, à mon avis, c'est capital pour pouvoir lutter contre le terrorisme. J'espère que la résolution va aller très vite, parce que le problème n'est pas, j'en aurais terminé, le problème n'est pas de signer une résolution et d'applaudir, mais le problème, c'est que ça se traduise dans les faits, et dans les faits, il faut que ça se traduise. Vous avez vu ce qui s'est passé hier sur l'axe Douanza-Tombouctou, c'est-à-dire deux personnes à moto qui quand même arrivent à brûler une dizaine de véhicules. À Gao, hier, il y a eu 2 morts, vous savez. Donc, ce n'est quand même pas possible. Il faut que Gao est une zone de guerre, que nos militaires considèrent la zone comme une zone de guerre et qu'on soit, par exemple, incapable de leur arracher un véhicule. C'est impensable qu'on puisse, dans cette zone, venir voler 2 véhicules de l'armée alors que les militaires sont assis quelque part. Est-ce que vous voyez? Donc c'est aussi dans la mentalité qu'il faut pouvoir changer les choses.
Alors, Ibrahim Labaskeïta, puisque nous parlons, alors allez-y.
C'est surtout aussi que au-delà même des hommes, des matériels, des renseignements avec les populations, c'est le système de checkpoint aussi qu'il faut bien voir. Parce que vraiment, moi, je ne suis pas très satisfait de la façon dont les checkpoints sont installés. Parce que je vois souvent des checkpoints sans sac de sable, sans des gens barricadés, bien prêts à tirer à tout moment. On voit qu'il y a toutes sortes de fourre-tout dans cette histoire-là. Donc, je pense que ça ne va pas.
Donc, vous avez l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de précautions?
De précautions au niveau des hommes. Il faut que cela soit vu de très clair, tant au niveau de l'aménagement, même qu'au niveau de l'armée surtout. Et puis, même les camps militaires et autres là. Il faut que ça soit des véritables forteresses. Parce que c'est en ce moment qu'on se rend compte que... Parce que j'ai vu des camps comme ça en Afghanistan, des camps comme ça au Liban. Quand les troupes françaises étaient au Liban, c'était des sacs de sable à perte de vue. Et avec même des troupes américaines, c'était des sacs de sable. Mais je ne vois jamais des camps comme ça au nord. Et même là où il y a les checkpoints, même là où il y a des sites, comment dirais-je là, sensibles. Donc il faut bien voir ce côté-là aussi et même pousser les hommes vraiment à être vraiment efficaces. Parce que combien de fois les véhicules de ravitaillement des checkpoints ont été attaqués par des terroristes. Et chaque fois, des véhicules sont emportés. C'est la seule fois où j'ai entendu dernièrement qu'il y a une résistance à ce niveau. Bon, si des choses comme ça doivent continuer, je pense que il y a problème. Parce qu'en ce moment, au-delà même des moyens, des hommes, tout, il faut qu'il y ait beaucoup plus de précautions autour de ces zones sensibles.
Alors, Serge Daniel, nous parlons des hommes, nous parlons du matériel. Je crois qu'il est important de souligner que le Conseil de sécurité a souscrit à la proposition du secrétaire général de l'ONU de transférer la force d'intervention rapide créée en 2014 en Côte d'Ivoire, et l'unité aérienne qui soutient cette force à l'aménagement au plus tard en mars 2017. Alors, d'une façon générale, je pense qu'il s'agit de prendre des mesures nécessaires pour assurer la coopération entre l'aménagement, la mission donc au Libéria, l'ONICI et le transfert à l'aménagement des contingents et de bien d'autres missions. Alors, je crois que c'est des éléments nouveaux qui sont assez importants.
Oui, ça c'est très important, et ça prouve effectivement qu'ils ont totalement changé de lunettes, parce que dans la procédure onusienne, le matériel aurait dû venir, par exemple, d'Europe. Mais ce que nous avons, c'est que nous avons un dispositif opérationnel en Afrique de l'Ouest, vous l'avez dit tout à l'heure, Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, vous savez que si voilà, l'ONU va fermer ses portes là-bas, une partie en Afrique de l'Ouest également au Libéria, et donc l'idée c'était de dire, attention, ça urge, nous sommes trompés, c'est une manière de reconnaître qu'ils se sont également trompés, et qu'il faut transférer assez rapidement le dispositif en Afrique de l'Ouest vers l'Afrique, vers le Mali, vers le nord du Mali, et surtout vers le Sahel. Et ça, c'est quand même un aveu, c'est-à-dire que c'est très important dans le dispositif, dans le langage onusien, de dire nous sommes trompés, c'est une manière de reconnaître qu'ils se sont trompés. C'est pour ça que j'espère que les choses vont aller vite. Vous avez dit tout à l'heure mars 2017, mais j'espère que les choses vont aller quand même assez vite pour que sur le terrain, on puisse lutter contre le terrorisme. Parce que ce qui se passe, c'est qu'ils ne dorment pas, eux. Ils ne dorment pas. Et si vous faites attention, quand ils tapent, ils frappent pendant une période, donc c'est comme si c'était très articulé, et ils frappent pendant une période, et vous avez vu, pendant les deux derniers mois, ils ont tué quasiment, dans trois opérations différentes, le même nombre de personnes, c'est-à-dire que ce soit dans Barkhane, que ce soit au sein de l'armée malienne, que ce soit dans les forces onusiennes, 5 personnes tuées ici, 5 personnes tuées. Donc ce ne sont pas des gens qui dorment, ce sont des gens qui expérimentent des tactiques de guerre, ils fabriquent comme on t'appelle des bombes de manière artisanale, donc ils ne dorment pas et nous n'avons pas, à mon avis, le droit de dormir.
Alors nous allons maintenant demander l'impression de Paul Ben qui est de l'autre bout du fil. Alors Paul Ben, avec cette nouvelle qui annonce le transfert par exemple du matériel de l'ONICI, je crois qu'on peut s'attendre au fait que les choses vont assez rapidement évoluer.
Oui, on s'attend que les choses ont évolué. Comme Serge Daniel l'a dit, mars 2017, c'est trop loin. Les terroristes ne dorment pas. Et moi, je dis, et je le répète, le matériel qu'on a actuellement en place au niveau de l'aménagement peut nous permettre de commencer quelque chose. Je l'ai dit, les 650 militaires allemands qui sont venus et qui sont basés à Gao sont venus avec du costaud. J'ai visité le camp, d'ailleurs j'y retourne la semaine prochaine. Ils sont venus avec du costaud par rapport aux renseignements. Ça, c'est leur mission principale. Maintenant, par rapport au combat ou à la destruction des cibles, je sais que à Tessalit, par exemple, et à Gao et à Kidal, la MINUSMA a les moyens de pouvoir aller sur le terrain avec certainement l'apport de Barkhane et peut-être des FAMA pour aller dénicher ces terroristes. Vous savez, dans la zone de Douanza, par exemple, dans le Karouassa, les gens qui s'adonnent à ces actes terroristes sont connus. C'est la population les connaît. Le renseignement humain, comme Serge Daniel l'a dit, c'est vrai, vous partez, vous demandez à un villageois où est-ce que se trouvent ces gens, il va vous le dire, mais après, est-ce qu'il est sécurisé, c'est celui qui va vous donner l'information. La semaine dernière, le groupe qui s'est réclamé tout récemment en faveur de la lutte contre l'exaction des Peuls s'est réuni dans la localité à 35 km de Douanza. Nos soldats et les gendarmes sont partis tous les cueillir. Maintenant, j'espère que l'État malien fera son boulot pour essayer d'extirper toutes les informations nécessaires pour circonscrire ce nouveau groupe qui, à mon avis, depuis longtemps, s'adonne à des exactions. Je reviens à la MINUSMA pour vous dire que le matériel qu'ils ont actuellement, que j'ai vu, peut déjà commencer le boulot et ne pas attendre mars 2017. Si les choses viennent en mars 2017, ça va renforcer ce qui est là. Mais on ne doit pas rester pour dire que bon, tant que mars 2017 n'est pas arrivé, ben, on attend. Et pendant ce temps, les touristes ils vont gagner du terrain. C'est un peu mon avis.
Et à vous aussi, pensez-vous que c'est un peu trop loin, mars 2017
Oui, c'est trop loin. Surtout que les attaques se succèdent en cascade. Donc, attendre encore 2017 et surtout mars 2017, je crois que c'est donner encore plus de temps aux terroristes. C'est comme quand l'ONU avait dit au départ qu'elle va envoyer des troupes pour défendre le Mali au nord. Vous avez vu comment ça s'est passé. Ça veut dire que ça leur permet de gagner, de considérer ce temps, de mettre ce temps-là à profit pour taper plus fort. Et c'est ça qu'il faut surtout craindre. Alors, bon, je pense quand même que Barkhane est là pour nous aider. Bon, la MINUSMA aussi est là et puis les FAMA aussi sont là pour éviter que le chaos ne s'installe. Mais quand même, aller plus vite, ça allait être mieux. Parce que au moins, ça donne l'idée que le Mali est, comment dirais-je là, est en bonne voie d'attirer rapidement la paix. Sinon, à ce rythme-là, attendre mars, je crois que c'est trop long.
Cher Daniel, un autre point important quand même de cette résolution du Conseil qui demande à tous les groupes aux armées qu'ils déposent les armes, qu'ils mettent fin aux exactions, aux hostilités, et renoncent à la violence et rompent avec des organisations terroristes. Je crois que c'est une mesure importante, mais comment est-ce qu'elle peut être appliquée?
Alors, vous savez, si vous prenez l'accord d'Alger, il y a l'article 53. L'article 53, c'est l'article qui fait référence à toutes les sanctions qu'on peut prendre contre les hommes ou contre les groupes qui empêchent le processus de paix de marcher normalement, d'avancer, j'allais dire. L'une des choses que je regrette le plus dans l'application de l'accord d'Alger, c'est qu'on n'a jamais pris de sanctions contre les groupes. Donc, ce qui fait que les groupes... ils se disent, mais non, il n'y a pas de sanctions. À partir du moment où il n'y aura pas de sanctions, on peut dévier, revenir dans les rangs, etc. Ça, c'est la première chose. Mais ce ne sont pas seulement les groupes qui doivent respecter les engagements. Le gouvernement de la République doit respecter aussi ses engagements. Si le gouvernement de la République ne respecte pas ses engagements, le processus ne pourra pas, à mon avis, aller de l'avant. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que on puisse quand même désigner nommément les personnes, les groupes ou les partis qui empêchent le processus de base. Je pense que si on commence à prendre des sanctions, vous avez vu dans d'autres pays, à partir du moment où on a commencé à prendre des sanctions individuelles, les choses ont fonctionné. Mais si vous avez des responsables, si vous êtes dans un groupe et il n'y a pas de loi et qu'on n'applique pas les lois, qu'on ne peut pas prendre de sanctions, à mon avis, ça va être un peu difficile.
Mais les mots sanctions sont bien mentionnés dans les documents.
Oui, mais c'est pas la première fois. Déjà dans l'accord d'Alger, on a célébré l'an 1 de la signature de l'accord d'Alger. Pourtant, il y a eu plusieurs violations de cessez-le-feu sans qu'il y ait des sanctions. C'est ça le problème. Si aujourd'hui on peut en fait aller aux sanctions vis-à-vis des groupes, ça va être intéressant, vis-à-vis des personnes, de toutes les parties, la partie qui ne respecte pas ses engagements ou qui viole les accords, il faut qu'on puisse la punir. Ça c'est un. L'autre chose, c'est qu'on aura beaucoup de difficultés à respecter le calendrier, disons-nous les choses. Vous savez qu'on a un référendum constitutionnel qui va être en cours. Il y a une commission qui vient d'être, j'espère, qui vient d'être mise en place. Vous allez voir, le référendum aura lieu, à mon avis, s'il a lieu, il aura lieu en fin d'année. Donc, tant que on ne va pas adopter une nouvelle constitution, il y a, dans l'accord d'Alger, il y a des dispositions qu'on ne pourra pas appliquer. Donc, jusqu'en fin d'année, on risque d'être pas sur des béquilles tout le temps, mais on risque d'avoir quelques problèmes pour pouvoir avancer dans l'accord. Cela dit, il faut que le cantonnement commence. Mais si, puisque c'est un cantonnement, c'est ce qu'on appelle le processus DDR. Ce n'est pas D, mobilisation seulement, ou bien D comme désarmement. Il y a réinsertion également. Il faut cantonner les sites de cantonnement, vous le savez, sont identifiés, mais ils ne sont pas totalement construits. Commençons par le cantonnement, mais commençons aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il est dit clairement dans l'accord qu'il faut des patrouilles mixtes pour sécuriser les populations, rassurer les populations. Donc, que ce soit à Gao dans un premier temps ou à Tombouctou dans un premier temps, vous aurez 200 éléments des forces de sécurité nationale, vous aurez 200 membres des groupes armés de la plateforme, 200 autres de la rébellion, de la CEMA, qui vont mener des patrouilles ensemble. Je pense que ça peut ramener rapidement la confiance. Mais il ne faut pas faire du désarmement tout de suite en disant désarmement. Vous avez vu le processus en Côte d'Ivoire. La dernière arme qui était déposée par les rebelles en Côte d'Ivoire, la dernière arme a été déposée après les élections. Donc on ne peut pas désarmer tout de suite tout le monde, mais le problème c'est de pouvoir commencer le processus du DDR et que chaque partie respecte les engagements qu'elle a pris devant la communauté internationale et devant la communauté nationale.
Donc le plus important c'est de pouvoir commencer.
Il faut commencer.
Alors la suite de cette émission dans un instant.
Un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le renouvellement du mandat de la MINUSMA, c'est donc le sujet qui est au centre du forum de la presse de ce vendredi. Alors, nous venons d'entendre Serge Daniel. Il s'est prononcé sur une question qui est assez importante. Alors, nous allons à présent nous tourner du côté de vous, Labasso Touré. Ibrahim Labasso Keïta. Alors, nous venons de le dire. Il y a beaucoup de choses à faire puisqu'on demande que les groupes armés déposent les armes, mais Serge l'a dit, on l'a dit, ce n'est pas la première fois et ça n'a jamais été appliqué parce qu'il n'y a pas de sanctions qui suivent. Alors, qu'est-ce que vous pensez quand on demande au niveau du Conseil de sécurité, on demande aux groupes armés de déposer les armes, de cesser les hostilités, alors de rompre avec les terroristes, est-ce que vous pensez que cela pourra avoir un effet?
Bon, ça peut avoir un effet, à condition, comme M. Daniel a eu à le dire, que les textes soient appliqués à la lettre. Que s'il y a sanctions, qu'il y ait des sanctions contre les fautifs. Et généralement, c'est ce qui n'arrive pas à être fait. Parce que généralement, à chaque fois qu'il y a des attaques terroristes, on sent même des complicités. Mais comme on le dit, on n'arrive pas à le dire clairement. On fait disparaître tout ça dans les propos diplomatiques, comme si c'est des phénomènes qui sont arrivés comme ça et puis c'est des phénomènes passagers. Non. C'est-à-dire qu'il faut aller tel quel sur le terrain. Il y a eu des attaques, il y a eu des enquêtes. Les enquêtes ont situé des responsabilités alors que maintenant que les sanctions tombent. Parce que chaque fois on dit que les enquêtes sont ouvertes, mais généralement c'est des enquêtes qui ne sont pas suivies des sanctions. Or, dans les enquêtes, on sait très bien qu'ils aboutissent à des choses très claires, des résultats très clairs. Mais à partir du moment que les résultats sont connus, pourquoi ne pas appliquer les sanctions?
Alors, Pounbel est toujours en ligne. Alors, Pounbel, vous l'avez suivi. Il est question donc que les groupes armés déposent les armes. Alors, dites-nous maintenant, avec ces renouvellements et toutes les mesures annoncées, est-ce que vous pensez que des processus comme, par exemple, celui du cantonnement vont pouvoir aller un peu plus vite?
Justement, je voulais commencer par le cantonnement parce que vous savez, ce processus, c'est toute une chaîne. Hein. Pour pouvoir rassembler les gens, il faut les cantonner. Pour pouvoir les identifier, les faire désarmer, il faut les cantonner. Or, à ce jour, malgré toutes les déclarations que j'ai entendues ici et là par le MINUSMA, les cadres du gouvernement, etc. Sur le terrain, le cantonnement n'est pas du tout apparent. Vous savez, quand vous voulez cantonner les combattants, il faut quand même mettre le minimum de mesures sur place, c'est-à-dire un endroit où ils peuvent loger, de l'eau, et surtout les vivres. Mais sur le terrain, ce n'est pas le cas. Et tant que vous n'avez pas mis cette première mesure sur place, les gens ne pourront pas se rassembler pour être cantonnés, être désarmés, et puis que la suite se fasse. Je vois très mal cela commencer sous peu, parce que tout le monde se plaint. Le gouvernement du Mali, bon, son sport favori ces derniers temps, c'est l'organisation des forats. Les groupes armés, aussi bien de la CMA que de la plateforme, se plaisent dans les petites luttes internes et puis les petits bénéfices qu'ils en tirent. Donc tout le monde est là. La MINUSMA, elle aussi, bon, de temps en temps, par à-coup, elle lève le ton comme la dernière fois où son représentant spécial ici disait que ouais, le processus est à l'arrêt. Mais moi, je n'ai pas entendu de sa part dire ce que la MINUSMA devrait faire et qu'elle n'a pas fait. Donc, vous savez, c'est tous les acteurs de ce processus qui sont, je crois, au sommeil. Ils sont un peu en hibernation, donc il faut les réveiller. Je ne sais pas comment on pourra le faire, mais pour l'instant, moi, je vais vous dire que je ne vois pas ce processus démarrer avant l'année prochaine. Ça, je vous l'ai dit. Parce que sur le terrain, rien n'est fait. Et dans les bureaux à Bamako, bon, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de paperasses, il y a beaucoup de discours, mais sur le terrain, il n'y a rien. Ça sera très difficile.
Ibrahim Labas Keïta du Scorpion, il est question d'aider quand même à rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. On sait que c'est très important, particulièrement pour que les élections à venir soient une réussite. Mais comment est-ce qu'on peut parvenir à cela?
Bon, déjà, comme on a parlé des autorités intérimaires, la mise en place des autorités intérimaires, je pense qu'il faut procéder par ça. Et concomitamment, c'est-à-dire que mettre en place aussi l'administration partout où cela est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse en sorte que l'administration soit partout au nord. Alors, et surtout dans les zones qui ne sont pas touchées. Donc, au-delà de tout cela, il faut reconnaître que l'État doit faire tout de son mieux pour être partout. Parce que c'est là où on peut organiser les élections. Parce que moi, je serais très offusqué de voir que les élections soient organisées et qu'il y ait des zones qui ne soient pas touchées. Par exemple, comme on a eu à connaître le cas lors des législatives partielles de Dansongo, il y a eu toute une commune où les gens n'ont pas eu à voter. Parce que tout simplement, les forces hostiles ont dit que c'est leur territoire. Alors, donc, or, on était dans une situation de processus de paix. Et donc, on ne voit pas pourquoi on empêche les gens d'aller exprimer leur vote. Alors, donc, je crois qu'on doit éviter que de tels cas se passent avec les prochaines élections. Quand les élections se tiennent, il faut qu'on soit rassuré que les élections se tiendront dans toutes les communes du Mali. Et à ce moment, le jeu sera fait.
Daniel.
Alors moi je voulais dire deux choses. La première c'est par rapport rapidement au cantonnement. Ce qui rend difficile la chose, et ça c'est dangereux, je pense que ce soit la MINUSMA ou les Nations Unies, les médiateurs, les facilitateurs, on doit revoir une disposition de ce que dit l'accord, c'est-à-dire que si vous voulez être cantonné, il faut déposer une arme. Donc on est considéré comme rebelle, comme homme armé, celui qui a une arme. Mais ceux qui n'ont pas d'arme,
et qui ont envie, par exemple, de devenir, de cantonner, de rentrer dans le processus, et qui arrivent, vous l'avez vu, ils achètent des armes dans le stock de l'armée régulière, ça a été démontré, puisque des armes ont disparu. D'autres vont acheter des armes chez des rebelles, ou bien d'autres ont 6 armes, ils donnent 2 armes à deux copains pour se cantonner. Je pense qu'il faut revoir peut-être ce dispositif en disant, ce n'est pas seulement parce que vous avez une arme que vous êtes considéré comme un combattant. La deuxième chose, je suis persuadé qu'on va probablement avancer à un moment, parce que vous voyez, par exemple, on vient de nommer le haut représentant du chef de l'État, cette fois-ci, pour l'application de l'accord d'Alger. Parce que, au sein du gouvernement, le ministre chargé de la reconstruction du Nord et de la solidarité, M. Konaté, c'est lui qui pilotait un peu le dossier, et visiblement, il devenait de plus en plus essoufflé pour signer un document. Parfois, il est pris ailleurs, il n'est pas là. Donc, maintenant, il y a un représentant du chef de l'État pour cela. Donc, ça peut servir. Je suis patiemment, je suis honnêtement, moyennement optimiste, parce que je pense effectivement que tant que vous n'allez pas avoir une nouvelle constitution, vous ne pouvez pas appliquer tout l'accord d'Alger. Donc la réforme constitutionnelle aura lieu, enfin le référendum aura lieu en principe au mois de décembre, fin de l'année. Donc il faut attendre l'année prochaine, mais il ne faut pas dire, bon, on attend qu'il y ait le référendum pour être tout réglé. Il faut tout régler et que le référendum soit plutôt le couronnement, si vous voulez, des actions en faveur de la paix dans le nord du Mali.
Alors, Paul Ben, on va quand même dire un mot des forces armées maliennes, mais surtout un autre plan. Cette fois-ci, c'est pour terminer l'émission. Alors, le général Didier Dakou, à présent général de division, vient d'être nommé chef d'état-major des forces armées. Est-ce que cela vous surprend?
Bon, vous savez, M. Fomba, sans vouloir être un peu ironique, bon, c'est un bon militaire. Je crois que, bon, s'il a été nommé, c'est que ceux qui l'ont nommé ont considéré qu'il est bien. Bon, je ne voudrais pas faire de commentaires par rapport à ce qu'il soit bien ou pas. Bon, je ne voudrais pas faire de commentaires par rapport à ça. Je crois que si les plus hautes autorités ont décidé d'en faire le chef d'état-major général des armées, bon, c'est leur choix. Je ne voudrais pas faire de commentaires par rapport à cela.
Vous l'attendez, vous l'observez et vous le jugerez donc à la tâche, c'est cela?
Voilà.
Alors, nous allons à présent suivre la réaction de Ibrahim Labaskita sur cette question.
Bon, général Didier Dakou, c'est un bon militaire, un militaire très respecté dans l'armée malienne. Il faut reconnaître qu'il a eu à montrer des preuves, il a eu à exercer des tâches importantes, et c'est un homme de commandement. S'il est bon pour le commandement, il en a montré les preuves. J'ai beaucoup de respect pour lui. Mais ça dit que, comme on dit, il faut toujours mettre l'or à l'épreuve du feu pour savoir que c'est de l'or. Donc il est maintenant à la tâche. On va le juger au jour les actes qu'il va poser et surtout les décisions qu'il arrivera à prendre. Parce qu'il faut reconnaître qu'il arrive à un moment aussi où beaucoup de nouvelles recrues sont en formation. Alors, donc, il y a même des problèmes à ce niveau, parce qu'il y a eu des morts d'hommes, alors au niveau des centres de formation. Donc, je crois qu'il sera jugé par rapport à tout cela. Donc, j'aimerais vraiment le voir à la tâche, pour ensuite porter un jugement sur sa personne.
Serge Daniel, pour le mot de la fin.
La première chose qu'il faut dire, c'est qu'il a été nommé d'abord parce que son prédécesseur est parti à la retraite. Hein, donc, il fallait nommer quelqu'un. Son prédécesseur était à la retraite bien avant. C'est intéressant de le voir. Son prédécesseur, qui n'était pas dans le moule en tant que tel, qui était nommé à l'époque, donc c'était une vision de reconstruction de l'armée. Mais là, évidemment, s'il est nommé, vous savez, il y a 2 éléments. Il était quand même dans le centre du Mali lors des événements de Kona. Il était à Kidal lors des événements, lors de la débâcle, il faut pas l'oublier. Donc on a voulu, les autorités ont probablement voulu nommer quelqu'un qui est déjà dans la main dans la pâte. Voilà, donc attendons de voir ce qu'il va faire. C'est un bon militaire, mais les militaires n'aiment pas que les civils disent qu'ils sont bons militaires. Donc il faut aller interroger les militaires pour savoir si c'est un bon militaire.
Alors, nous le tenterons, Serge Daniel. C'est donc sur ces propos que s'achève l'émission Le Forum de la Presse de ce vendredi. Je vous rappelle que le sujet du jour, c'était donc le renouvellement du mandat de l'AMINUSMA. On prépare à l'émission Sir Daniel, journaliste écrivain, Paul Ben, journaliste indépendant, Ibrahim Labas Keïta, qui est du Scorpion, il est également journaliste, à la mise en onde Peting Diarra, régie vidéo Nuhum Diré, réalisation Ousmane Diadjé Touré, présentation Seydou Fomba. Nous vous souhaitons un bon week-end et nous vous retrouvons pour le prochain forum vendredi prochain.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba. Et de Wani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo Dumondi.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.